podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique. Mon nom est Tommy Godette. On est là pour une autre édition du Plus Québécois des podcasts sur le jeu de cartes qui est mort le plus souvent qu'on connaît, hein? Magic the Gathering. On va caster des spells puis piger des cartes pour vivre l'aventure. Aujourd'hui, on est flanqué de Emmanuel côté Séguin. Ça va?
Ça va bien, certain. Bienvenue parmi nous.
Ben oui, ben merci. C'est-tu vrai ce que j'ai entendu dire?
Sûrement pas.
Ah, ok, ouais, c'est des médisances, hein, radotes un petit peu partout. Ben merci d'être avec nous. C'est toi qui nous as trouvé notre invité ce soir.
Ouais, par la bande.
Connaissance
interposée.
Ah, ben c'est cool ça. Est-ce que tu veux nous le présenter tout de suite? On fait le tour de table, puis je te passe la poque avant qu'on aille lui parler.
Ben oui, absolument. Écoute, on a déniché notre propre artiste québécois qui dessine pour Magic the Gathering.
Ouh!
Autre chose, il y a même plusieurs cartes qui sont sorties dans le dernier set. On va pouvoir en discuter plus abondamment avec François. Je sais pas si tu veux te présenter, est-ce que tu préfères sous le nom de François ou ton nom de peintre?
Ah non, François, c'est parfait. Tu peux y aller avec ça.
C'est bon.
Parfait. Ben, si on veut le reconnaître, ses cartes, par contre, c'est quoi son nom de peintre?
Ah, c'est Frank Tojovic.
Frank Tojovic. Parfait. Ben, merci beaucoup, François, de venir te mêler à Terrain Basique pour vivre l'aventure. Avant de continuer vers un petit peu découvrir notre invité, on va dire salut à notre chum Jason Keys. Comment ça va?
Bonjour. Oui, ça va bien. Écoute, je pouvais pas manquer ça, moi, là, des artistes.
Ben oui.
Donc, c'est pour ça que Jonathan aussi, je pense qu'il va être content. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir?
Ce soir, ce qu'on écoute, c'est Hyper Light Drifter, parce que je regardais le portfolio de M. François, puis j'ai fait comme, hey, c'est vrai, ça fait un bout, j'ai pas joué à ce jeu-là, puis c'est ça, je suis tombé là-dessus, fait que merci de la recommandation involontaire, puis le soundtrack est quand même super bon. Fait que,
OK, parce que François, t'as travaillé dans des jeux vidéo avant de te ramasser dans les jeux de cartes.
Oui, j'ai fait à peu près 6-7 ans que je travaillais dans le jeu vidéo. Okay. En ce moment, je travaille sur mon propre jeu, mais j'ai fait beaucoup de travail dans le jeu mobile avant ça.
OK, wow. Fait que, qu'est-ce qui t'a amené à être un artiste au final? Ça vient d'où cette passion-là?
Ah, ben, je te dirais que c'est vraiment depuis que je suis jeune, là, je sais pas, depuis que j'ai pris, j'ai commencé à dessiner. Je me suis dit que je voudrais faire ma vie avec ça. Fait que. C'est une passion qui me suit depuis très, très longtemps.
Puis t'as comme jamais arrêté, on te met un papier puis un crayon, tu doodles, t'avais ça dans le sang, là.
Pas mal ça, ouais.
Y a-tu des agents facilitateurs dans les adultes qui ont supervisé le François?
Je te dirais que dès le départ, mes parents qui m'ont pas complètement découragé d'aller dans cette direction-là.
T'as entendu une couple de fois le trouve-toi donc une vraie job aussi avec ça, là?
Ben non, ils ont été vraiment encouragés beaucoup là-dedans. Ça devait les stresser à certains moments, mais j'ai toujours senti leur support là-dedans. Puis là, après ça, je pourrais nommer des professeurs que j'ai vus au cégep.
Oui, c'est souvent important, ça. Y avait-tu quelque chose que tu dessinais en particulier, le jeune, genre des serpents, des dragons? Y avait-tu comme une thématique qui revenait?
Je te disais que je dessinais beaucoup. Ben ouais, des affaires de donjons dragons. J'ai commencé ça, D&D, quand j'étais début secondaire.
Ah, ben puis, ça, c'est une bonne affaire, ça.
Oui, mais ça. Puis sinon, des affaires de Star Wars. Puis je dessinais comme des batailles de Star Wars. Souvent, là, c'était tout, c'est vu de côté. Là. Alors, c'était quasiment bonhomme à limite, mais j'avais bien du fun à faire ça.
Grim, ben écoute, ça a porté fruit à un moment donné. T'es-tu aussi assez varié sur les médiums? Parce que là, si on sait que tu as travaillé dans les jeux vidéo, tu t'es ramassé avec une tablette à dessin, plus peut-être même avec des pixels. Mais y a-tu comme un médium que tu préfères?
Ben, je te dirais que pour en ce moment, pour le type d'illustration que je fais, c'est vraiment beaucoup tablette graphique avec Photoshop.
OK.
Puis, c'est ça, c'est vraiment de la peinture. Je te dirais que si j'essaie de reproduire ma technique, mettons, plus avec des outils traditionnels, ce serait peut-être plus proche du airbrush. Parce que c'est vraiment des dégradés très, très soft, tu sais, puis c'est beaucoup dans les couleurs assez vives.
OK.
Ouais, fait que, mais sinon, tu sais, je dessine encore beaucoup traditionnel, je fais de l'animation aussi, c'est assez connexe. Ma formation est d'ailleurs en animation 2D pour le cinéma, mais j'ai bifurqué vers le jeu vidéo.
Ah, oh, ton court-métrage, ben, j'imagine que c'était ton court-métrage de fin de cégep ou c'était...
Ouais.
C'est quoi le titre, peut-être que les gens pourront aller le chercher?
Ben oui, le titre du court-métrage, c'est Ymir. C'est un court-métrage que j'ai fait en 2014 pour la fin de ma technique au cégep.
OK, wow, cool. Hein? Puis,
oh, ça a bien vieilli, là, genre.
Est-ce que c'est tes univers de Donjons et Dragons qui continuent à grandir? Est-ce que tu as comme une espèce de trame d'histoire principale, un monde que tu développes depuis?
Ben, je te dirais qu'en général, il y a quelques illustrations que oui, j'ai voulu développer plus un monde fantastique. Là. Il y a certaines illustrations que j'avais faites sur une espèce de nécropole avec des musiciens. Je pense que vous regardez sur mon site, vous allez les trouver. Il y a des squelettes avec des instruments de musique.
Wow. Hey, Tommy, mets donc le partage de l'écran, s'il te plaît.
Non, oh, excusez.
Oui, s'il te plaît, ça va. On va
ben, continue, François.
Vas-y, François.
Ben ouais, c'est ça, mais beaucoup, je te dirais que pour vraiment de l'illustration, là, tu sais, ma passion, c'est vraiment dans le jeu vidéo, puis j'en ai, tu sais, je veux dire, j'ai fait beaucoup, beaucoup de Dark Souls, beaucoup de Zelda, j'ai commencé beaucoup à faire ça durant mes fins de semaine, parce que, tu sais, au départ, comme je disais, je travaillais dans le jeu mobile, mais je voulais quand même prendre du temps pour travailler sur plus des trucs qui me motivaient moi-même. Je fais une petite parenthèse, les jeux mobiles que je faisais, c'était des jeux mobiles pour enfants, fait que c'était genre Barbie pis Thomas le train.
Fait que ah ça, ouais, ouais.
Tu trouvais pas trop ton filon là-dedans.
C'est pas là qu'on allait dans Nécropole, mettons.
non, exactement.
T'avais-tu l'âge d'écouter les G.I. Joe pour vrai? On vient de voir le commandant Cobra, là.
Ben, les G.I. Joe, en fait, ça, je pense que j'étais un petit peu trop jeune pour ça, mais c'est un contact chez Hasbro qui m'a écrit, puis il m'a dit « On aimerait t'avoir pour faire un cover spécial pour ce qui ça, ils ont leur série G.I. Joe Classified qu'ils faisaient. » Puis, il allait commissionner plein d'artistes différents pour faire les différents bonhommes, puis wow. Que le style allait bien marcher. Fait que...
Fait que dans le fond,
c'est le premier contrat que t'as fait avec Hasbro qui t'a peut-être mis le pied dans la porte ou.
Ben, honnêtement, des fois, je me le demande, mais je ne sais pas. Parce que je sais que ça.
C'est pas à quel point c'est connecté. Hein.
Non, c'est ça. Ouais. Je sais que c'est assez. Tu sais, Hasbro puis Wizard, ça a l'air d'être quand même dans leur propre vase à eux, mais je sais pas si c'est des vases qui communiquent nécessairement ensemble. En tout cas, je me dis que ça n'a pas dû nuire. Fait que...
ça, je l'adore que tu aies pris soin de mettre la bureaucratie dans ton illustration de Godzilla. Félicitations. C'est un aspect qu'on oublie souvent dans.
C'est 80% du film.
Effectivement. <c'est... Ouais. rire> Oh là. Fait que là, tu te ramasses, t'as même pas besoin d'envoyer de CV. Là. Le monde te contacte pis ils disent on aimerait ça t'envoyer François pour participer à une campagne visuelle ou pour que tu nous fasses une ébauche pour telle affaire.
Ben oui, effectivement. Puis je suis le premier surpris d'entre vous. Je sais pas d'où c'est qu'ils me trouvent. Je sais que je suis quand même sur Internet depuis un bout, mais c'est ça qui s'est passé avec G.I. Joe, c'est ça qui s'est aussi passé avec Magic.
Ah, Magic, ils t'ont contacté, c'est pas, t'as pas été comme, t'es pas gossé avec des portfolios pis ça, là.
Non, même pas, c'est la directrice artistique Sarah Wassel, je crois, qui m'a contacté, puis elle m'a demandé dans le fond si je serais intéressé à faire des cartes pour le nouveau set de Eldraine.
Nice,
t'as dit, ah, je vais y penser.
Mais toi, tu joues à Magic depuis longtemps, je pense.
Oui, depuis l'école primaire, dans le fond. Mais tu sais, au début, je jouais, puis c'était plus. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent de poche. Fait que c'était plus...
on a tout passé par là.
C'est ça.
C'est le commandeur à l'époque, là.
Ouais, exactement. Fait que oui, je jouais avec les cartes de mes amis beaucoup. Puis au secondaire. Ben, t'as acheté une couple de cartes, mais j'ai commencé à plus jouer quand il y a un de mes amis qui m'a donné un deck pour ma fête.
C'était un deck de quoi? Parce que je veux qu'on parle plus de Magic après la carte de la semaine, par contre. Tiens, on gardera ça tantôt. On parlera de ton premier deck tantôt. On va plus revenir sur ton talent artistique, sur comment que tu as développé ça. Moi, j'aime beaucoup l'idée des mentors. Tu nous as parlé de tes professeurs au cégep comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a encore du monde qui t'ont appris des affaires sur le tort comme ça? Qu'est-ce qu'un prof au cégep peut t'apprendre, mettons?
Ah ben je te dirais que au cégep c'est vraiment là que ma formation artistique s'est solidifiée. Okay. Moi j'étais allé comme j'ai dit plus tôt, j'étais allé en animation 2D, c'était au cégep du Vieux-Montréal. Puis les professeurs là-bas, c'est tout du monde c'est eux dans le fond qui ont formé le programme à peu près au début des années 2000, puis c'est tout du monde qui venait de l'industrie du dessin animé. Donc, c'est surtout beaucoup du monde de Cinor, quand Cinor a fermé à l'époque. Okay. Fait que eux autres sont arrivés, il y avait plus de job, puis ils se sont dit, ben là, on va partir un programme pour former la prochaine génération d'animateurs. Puis c'est vraiment tout du monde avec beaucoup
d'expérience. D'expérience,
de talent,
ouais.
Ouais.
Ils ont commencé avec le 2D, puis après, ils ont développé le programme 3D en animation, si je me souviens bien.
Oui, ouais, okay. Exactement. Yeah. Ouais, ben c'est ça, le programme 3D est arrivé, je crois, un peu plus tard, en 2005, mais ça s'est suivi assez bien.
Puis comment tu t'es ramassé à travailler pour des jeux vidéo?
Ben, dans le fond, quand je suis sorti de ma cohorte en 2014, j'avais un de mes amis qui lui, ben en fait j'avais plusieurs de mes amis qui travaillaient, qui s'étaient pogné une job dans une petite start-up qui s'appelait Burrito Studio, qui faisait un jeu indie, qui s'appelait Islands. Puis il cherchait un artiste pour faire des décors, c'était un genre de jeu de stratégie tour par tour, en vue isométrique, fait que les décors prenaient quand même beaucoup de place. Fait que, puis comme je me spécialisais un peu là-dedans, même à la sortie du cégep, ben mon ami qui était là-bas, il venait me chercher. Puis, c'est comme ça que j'ai eu ma première job.
Et voilà, on va essayer, crème, en sortant en plus. Pas pire. Ouais. Les papiers, ils ont dû s'essuyer le front. Là, genre, fiouf, ça a bien été. Ils ont bonne affaire. Félicitations. Puis là, ben, depuis ça, moi, on vient d'aller se promener sur ton site aussi. On va certainement mettre le lien dans la description. Aller faire un tour. Vu que c'est un artiste visuel, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé tout de suite quand tu as commencé à avoir une carrière d'artiste, ton site Internet? C'était-tu avant? C'est-tu toi qui gère tout ça?
Je te dirais que le site Internet, je l'ai fait dans ma dernière année de cégep parce qu'on avait un cours qui était dédié à ça, un peu se marketer en tant qu'artiste. Ouais. Il a quand même évolué depuis ce temps-là, mais je l'ai depuis quand même assez tôt, je te dirais. Puis, c'est ça. Plus tard, c'est venu, j'ai quand même aussi un magasin en ligne, mais ça, je l'avais pas en sortant du cégep. C'est venu par après.
Et voilà, on est tough parce que je me dis que ça doit être quand même une facette importante du travail d'artiste, effectivement. Je suis content de
ça
savoir.
Ça fait office de portfolio puis de carte de visite.
C'est ça. Surtout que quand tu me disais, je me souviens plus dans quelle année, mais genre, je sais que moi, quand je cherchais des jobs en infographie, c'était. Ou même, t'es genre, OK, non, c'est quoi les plateformes qui sont disponibles? Est-ce qu'on va avoir un .com, c'est encore là? Fait que le. Je trouve que c'est une bonne idée du programme de justement te laisser ta dernière année ou whatever, donner du temps puis de la formation aux employés, aux étudiants, puis leur dire comme ouais, mets pas toutes tes cartes sur DeviantArt, les chances sont que ça va mal vieillir, tu sais.
Effectivement.
Fait que, là, t'habites à Montréal, tu travailles fort, le gars, il se garde occupé, il passe la soirée avec nous autres. Moi, j'ai plus d'autres questions. Je pense que les choses se sont bien développées, puis le monsieur avec nous autres a l'air willing de parler de Magic, mais je pense qu'on va aller à la carte de la semaine avant, ouais. C'est ça?
Je sais pas, moi, j'avais deux, trois questions. Là,
Ah ouais?
La première question super importante, genre, de 1 à 10, quelle note tu donnes à Ron Spencer? T'es pas obligé de répondre, tu veux pas te compromettre, c'est correct.
Je sais pas c'est qui, fait que ça va être.
Alright.
Bonne réponse.
Bonne réponse, excellente réponse.
Réponse, fallait dire.
T'as-tu des outils préférés? Comme moi, je suis pas professionnel, mais j'aime bien comme dealer avec Photoshop parce que ma licence est payée puis j'ai une Wacom. Mais t'as-tu comme attends, t'es-tu plus Procreate? T'as-tu une plateforme ou un outil que tu fais comme man, ça a changé ma vie depuis que j'ai ça dans mon workflow?
Je te dirais, non, je suis assez traditionnel avec Photoshop, même que j'essaye de faire le plus possible avec ça. Ouais. Comme en ce moment, je fais vraiment beaucoup d'animation pour le jeu que je suis en train de faire. Fait que j'ai appris à animer dans Photoshop. Puis c'est l'avantage de Photoshop, c'est que ça coûte vraiment pas cher. C'est quoi, une quinzaine de piastres par mois. Fait que ça me permet.
Ouais. Dans mon cas, c'est que je suis obligé d'avoir tous les outils. Fait que ça revient à 100 piastres par mois. Mais...
ouais, ok, mais c'est ça.
Tant mieux si t'as juste besoin de Photoshop. T'es voilà.
Ça nous amène à la carte de la semaine. Joe, t'as fini tes questions, tout le monde est satisfait. Fait que ce qu'on va railler, en plus, c'est notre invité qui l'a choisi, mais c'est une présentation de l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est. Vous irez voir le site Facebook. Hein. Je pense qu'il y a aussi des drafts réguliers. Là. Emmanuel va être très content de vous en parler. Mais pour l'instant, on écoute une petite tranche de Beat à Bone avant la carte de la semaine. Oh yeah! Hey, moi, de quoi? C'est-tu une carte que c'est toi qui as faite? C'est-tu une carte que tu préfères, François? C'est-tu une carte qui vient de l'intérieur de ton de ta passion du jeu? Parle-nous de la carte avant de nous la montrer.
Ben, c'est une carte qui m'a donné envie de jouer à Magic quand j'étais kid. Là, je jouais beaucoup dans un... Je viens de Repentigny, dans le fond. Puis quand j'étais ado, j'ai beaucoup à une petite boutique de jeux qui s'appelait Le Chevalier. Je les salue. Ils sont toujours existants. Puis je la voyais dans la vitrine. J'étais comme, ça, c'est une cool carte. C'est une grosse 11-11 qui donne des taloches. Là. Puis ça m'avait bien, bien inspiré à ce moment-là. J'avais pas l'argent pour l'acheter, mais je sais que je la voulais éventuellement.
Et t'as-tu réussi à te faire un deck auto, finalement?
Ben oui, c'est le deuxième deck. Là, je joue Commander. Je sais que c'est pas votre cas, vous êtes plus...
Non, on touche à tout, nous.
Ok, cool. Mais ouais, je joue plus Commander, puis c'est une carte que j'ai réussi à placer dans mon deck de Muzio Visionary Architect.
Puis, c'est quoi la carte?
Je pense qu'on est rendu.
Dark Steel Colossus.
Ah ben oui.
Je vais la décrire rapidement juste pour nos...
11-11 grammes.
Dis-moi que t'es un Timmy sans me dire que t'es un Timmy.
Téléspectateur, c'est Dark Steel Colossus, vous le voyez à l'écran, oui. C'est 11-11 pour 11, un artefact créature qui vient de Mirrodin. Dark Steel, Trample, elle est indestructible et si elle va au graveyard à partir de n'importe où, tu dois la révéler et la chauffer dans ta librairie. Ça, c'est pour éviter que tu fasses de la récursion avec. C'est quoi que t'aimes beaucoup de Dark Steel Colossus, à part que c'est un excellent finisher pour achever la game là, une fois que tu l'as cheaté en jeu?
Je te dirais que particulièrement pour le deck dans lequel j'utilise, là, Muzio est capable de mettre des créatures en jeu basées sur le plus gros artefact que tu as en jeu. Fait que tu.
Muzio, ben, c'est M-U-Z-I-O?
M-U-Z-Z-I-O.
N-U-Z-Z-I-O?
M comme maman.
Ah, excuse-moi.
Ah, je sais pas.
Muzio Visionary Architect?
Yes.
Oui, c'est un 1-3 pour 3. Tu tapes 4, 3 colorless et un bleu. Tu regardes les X cartes de ta librairie. X étant le plus gros converted mana cost que tu as dans les artefacts que tu contrôles. Tu peux relever un artefact parmi eux et la mettre directement sur le battlefield.
Ah, ben oui.
Et tu mets le reste sur le bottom. Fait que là, dans le fond, c'est presque comme un dig through time à chaque tour. Fait que là, dans le fond, ton Dark Steel Colossus, c'est pour creuser de 11 dans ta librairie pour aller chercher d'autres choses, dans le fond.
Exactement. Puis si t'es chanceux, tu pourrais l'avoir. Je l'ai déjà eu au tour 2.
Fait ouais. que ça, comment t'as sorti ça au tour 2 comment?
Je pense j'ai été locker avec mes mana rock.
T'es Sol Ring puis
OK ouais, puis, un enchaînement Sol Ring.
Classique Commander.
Ouais.
Ouais, exactement.
Hey, c'est cool.
Hey, Trample Indestructible 11-11, là, ça devient quand même un gros après-midi à gérer, c'est sûr et certain. Très bonne carte de la semaine, mon cher. Le dessin aussi, hein, il y a surtout quelque chose. Il fait comme le Iron Giant, là, le robot, la tête est weird.
Ouais, oui, dans les cartoons. Là, puis un petit bout de lore là, dans le monde de Mirodin, les Dark Steel, c'est que sur Mirodin, ils ont réussi à trouver une façon de faire un métal indestructible. Fait que toutes les cartes qui ont Dark Steel dans le nom, dans Mirodin, sont des cartes qui ont la particularité d'être indestructibles ou donnent indestructibles quand c'est des équipements. Donc, le Colossus, c'est comme probablement le plus gros amoncellement de ce métal-là.
Calvaire.
Pas mal cool comme concept.
C'est quoi l'espèce de fouette jaune qu'il y a autour? C'est quoi ça?
Non, j'ai pas réussi à savoir. Puis il y a des espèces de cheminées aussi, là, j'imagine. C'est son
moteur. Les cheminées, c'est cool. Là.
C'est cool. Ça a un gros. J'aime bien l'aspect steampunk. Là. Ouais. Puis Carl Critchlow, il est quand même cool comme artiste.
Ben écoute, ça en est d'autres. Là. Merci. Ouais, merci François pour ça, c'est très cool. On va se retrouver de l'autre côté de la petite pause du Beat à Bone pour jaser plus Magic cette fois-là. On va jaser Magic. Fait qu'on est de retour à ton premier deck, François. C'était quoi ton premier deck que tu t'es fait donner, là, qu'on parlait tantôt?
Ben, ça reste encore dans les artefacts. Je m'étais fait donner un deck, je pense que c'était du Legacy, même à cette époque-là, de Arcbound Ravager.
Oh yeah!
Oui.
Qui était un deck avec vraiment, basé sur les Artifact Lands, avec beaucoup, beaucoup de petits artefacts qui coûtent pas cher. Puis le but, c'était de... Il y avait aussi la thématique modulaire qui faisait en sorte que tu crinquais ton Ravager. Puis après ça, à cette époque-là, c'était Fling que tu utilisais. Tu flingais dans la face de ton adversaire.
Wow. Okay.
Toujours une belle façon de finir une game.
Puis, oui. Puis là, ça fait un autre deck d'artefacts. Ça veut dire que tes deux premiers, c'est des decks d'artefacts, si on comprend ça. Là. Fait que c'est quoi? C'est pour faire une suite sur le fait que tu tripais ces citadelles de nécropole de mort avant? Ça a-tu rapport, ça?
je sais pas. J'ai toujours... Écoute, c'est peut-être à cause, justement, du Dark Steel Colossus et du Arcbound Ravager, mais j'ai toujours aimé les artefacts. Là, à cette heure, j'ai d'autres decks, là. J'en ai un je suis rendu avec sept decks. Fait bon. Que j'en ai un qui est Ors of, j'en ai un, difficile à dire, j'en ai un de c'est Calamax qui s'appelle, et un gros dinosaure qui shoot des éclairs. J'en ai un de Archelos de Lagoon Mystic, qui est une tortue qui permet de me taper. Celui est plus récent. Mais ouais, j'en ai une coupe à Star. Mais les artefacts, ça a toujours été mon gros fan.
Ton petit dada, as-tu des couleurs préférées? Sinon, si on sort du colorless?
Bleu et blanc, je te dirais, c'est des couleurs que j'aime.
Ben, ça va pas avec les artefacts aussi, les deux.
Ouais, exactement.
C'est ça. Mais ça fait pas très nécropole, par contre. Fait que t'as laissé une partie du François du passé de côté pour t'en aller vers l'ordre et le rusé, on va dire.
Ouais, ben c'est ça. Le côté nécropole, je l'ai quand même un peu avec... j'ai un deck de Tessa, Ors of Sion, qui est vraiment dans le Ors of. Fait que là, on est dans le très nécropole à ce moment-là.
Effectivement. Ouais, Ors of, je pense que c'est pas mal assis.
Y a-tu un artwork là, de ta jeunesse que ça t'a comme stické puis que ça t'a beaucoup influencé sur ton art? Que tu sais, comme si tu pourrais acheter du art de Magic, là, ça serait ça dans ton salon, mettons.
Oh my. Oui, j'aime vraiment. Un des illustrateurs de Magic que j'aime beaucoup, c'est Mark Tedden, je crois.
Ah ben ouais.
Il en a fait justement. Un de mes sets préférés, c'est justement tout le premier bloc de Mirodin. Puis il en avait vraiment fait beaucoup à ce moment-là. Puis je trouvais, toutes les lands qu'il a faites pour ces blocs-là, je les trouvais vraiment, vraiment magnifiques. Je trouvais cette époque-là de Magic, en tout cas pour moi, je trouve qu'il avait trouvé le bon sweet spot entre réalisme puis stylistique un peu.
Okay.
Ouais, je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment rendu dans le très, très réaliste, là, ce qui a plein de qualités aussi, mais pour mes préférences à moi, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup cette époque-là de Magic, puis ces illustrateurs-là.
Ouais, Mark Tiddens en est vraiment un solide. Là. Puis les ces forêts de Mirodin, là, moi, ça m'a tout le temps fait triper.
Mark Tiddens, il a fait mon dessin préféré. Moi. C'est le vieux Léviathan. T'as-tu un dessin préféré de tout ça, toi?
Un dessin préféré, je te dirais les îles, ben les Artifact Lens et les Lens bleus de Mirodin. Ah. Je dirais que c'est dans mes. C'est pas des cartes spécifiques, c'est vraiment des Lens, mais je suis un gars de paysage.
Synode, là?
Ouais, le Synode, ouais, exactement. Exactement.
Ouais, c'est vrai que c'est cool.
John Avon, ça c'est un autre gros nom de Magic.
Oui.
Ouais. Ouais.
T'as-tu rencontré d'autres dessinateurs? C'est-à-dire, êtes-vous comme un crew? Avez-vous un groupe Facebook?
Tu parles pour les dessinateurs de Magic.
Ouais.
Ben, je te dirais, avant le contrat, pas vraiment. Là, depuis que les cartes sont sorties, ben là, j'en ai jasé une couple sur Instagram et sur Twitter. Mais c'est encore très nouveau, fait que possiblement que je vais en rencontrer plus dans le futur, mais pour l'instant, c'est assez... Ouais.
J'imagine que c'est comme à force de vous pointer dans une convention, tu vas comme partager une table ou serrer une poignée de main à un moment donné que...
Ouais.
Ben peut-être même que t'en as déjà rencontré puis tu le sais pas d'abord.
On sait pas.
C'est pas écrit dans son front.
Mystérieux, ben oui, c'est vrai.
Sinon, comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Tu sais, comment le premier contact que t'as eu, les... tu vas peut-être faire une carte, non, tu vas en faire quatre. Je sais que vous recevez comme des notes d'artistes. Là, ceux qui ont joué avec Modern Horizons, il y avait le Alt Art avec. Il y avait inclus comme justement la première version du art. Puis il y avait le mood à la place d'être le flavor text. C'était comme ouais. Le mood,
les instructions du dessin, parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Tu as des guidelines à suivre, il y a un style book pour chaque. Tu sais, les elfes de Eldraine sont pas les mêmes elfes que ceux de Dominaria.
Exact.
Si on regarde, je pense que c'est. Tu as illustré un géant pour Wilds of Eldraine. Je me souviens, c'est quoi le nom du spell rouge que tu as fait?
Ben écoute, peux-tu aller le chercher?
Ouais, c'était
super bien.
Puis. Il est vraiment le fun, là, mais le. Ouais, répercussion,
ouais, t'as fait répercussion où ce qu'on voit le géant qui a frappé un élémental de terre, puis ça lui a fait mal au poing, hein, il se tient la main.
Puis, ce que je déduis, c'est que tu as dû avoir des notes semblables, ou tu as dû être en communication avec avec l'artiste qui a fait l'autre version, parce que votre interprétation du géant. Est quand même relativement proche l'une de l'autre. Le super bien réussi. J'adore le concept des petits boucliers d'humain pour
ouais,
se protéger.
Ouais, il y a un costume en bouclier, c'est cool, hein?
Mais, en tout cas, c'est soit vous êtes arrivé à même idée en même temps, ou soit il y avait une note directrice quelque part. Là, genre, il y a du monde qui se sont parlé dans l'histoire.
C'est-tu des choses qu'on a le droit de nous raconter, ça?
Oui, tous ces détails-là, je peux vous en parler avec plaisir même. Ouais, ça, vraiment le look de chaque personnage, c'était vraiment quelque chose qui était stipulé dans le guideline. Donc, tu recevais une bible, là, je pense, c'était quasiment 200 pages avec vraiment tout ce qu'il y avait dans Eldraine à ce moment-là. Puis ça couvrait pas mal tout. Fait que, oui, ce géant-là, c'était effectivement un géant qui apparaissait d'ailleurs, je pense, dans le premier Throne of Eldraine. Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Mais je crois qu'il faisait partie du premier set aussi. Puis, okay. Même affaire, ben c'est ça, le géant dans le Lentax aussi, c'était quelque chose qui était stipulé en termes. C'est ça, il y a plusieurs types de géants dans les drains, puis je pense que c'est ça, les géants rouges sont un petit peu plus comme agressifs. Les géants blancs ont l'air d'être quasiment plus grands des fois, puis ils ont une peau un petit peu plus lumineuse. Les géants verts, souvent, avaient l'air quasiment du géant vert, comme il y a sur les cannes de petits pois. Là, ils ont des vignes qui leur poussent partout. Puis c'était quelque chose, en tout cas, c'était quelque chose qui me mettait dans le gag.
Voilà, maintenant que tu en parles, je reconnais, c'est le Bone Crusher Giant, dans le fond, qui se
rouge
sur le art. Ben oui.
Oui, okay, je pense que c'est exactement ça.
Ouais, ouais, ouais. Genre, si tu recheckes le Bone Crusher Giant, puis la barbe, puis les boucliers, justement. C'est en un mot, Bone Crusher, mais ouais.
Wow.
Ah, ouais,
Colin, hein, dans les. J'aime beaucoup aussi les arbres qu'on vient de voir sur le Land Tax. Ça fait comme hors des années 60-70. J'aime vraiment beaucoup ça.
C'est très belle. Ce style, moi c'est ton style qui me fait capoter, là. Puis, tu sais, pour ceux qui nous écoutent en audio, vous pouvez aller, j'ai mis dans la description du show, là, vous pouvez cliquer pour avoir chacune des cartes qu'il a faites. Écoute, c'est fou, Land Tax, là. C'est le géant est en train de rouler un Basic Land comme si c'était un tapis. C'est où, est-ce qu'ils t'ont dit de faire ça ou t'as eu cette idée-là?
Non, ça, c'était, c'était la chose qui était dans. Ouais, exactement. C'était de faire un géant qui roulait le paysage comme si c'était un tapis. Puis, okay. À partir de ça, vraiment, là, ça a été le challenge de trouver un angle de vue qui mettait bien ça en évidence, tu sais.
Mais, c'est crazy, là. C'est crazy. Puis là, tu t'es dit, comme... Parce que ça en même temps, moi, ce que j'aime de cette image-là, c'est que ça a... Même ce qui est en dehors du tapis qui est en train de rouler, tout a un effet pour justement donner l'espèce de profondeur puis de comme à quel point il est gigantesque. C'est qu'on dirait que tu sais, tout a comme une espèce de courbe. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire.
Ouais, je comprends.
Vraiment comme
ouais.
Un. Tout est fait en rond. Là.
Ben volontairement, il utilise. Ben, en tout cas, tu le sais plus que moi, c'est toi qui l'as fait, là, mais tu utilises l'ombre du bétail pour pointer vers le point focal central, puis tu as réduit, tu as réussi à faire du contraste, puis faire un genre de V pour aller directement, qu'on voit directement le géant avec tes affaires au premier plan en noir qui fait. Ouais, je sais pas si c'est par accident, mais ça a l'air super bien calculé puis bien monté ta composition.
Vas-y, François.
Ah non, t'as mis le doigt dessus. Là, c'est initialement pour ça. En même temps, le challenge avec les cartes Magic, c'est je voulais aussi je voulais faire une illustration qui tenait bien en soi, mais c'est aussi que tu sais que ça va être croppé à un certain point. Fait que tu veux que l'illustration look good quand elle est complète, mais aussi quand elle est croppée. Fait que ça, c'est un challenge avec lequel j'étais pas nécessairement familier, mais qui était vraiment le fun.
L'original est gros comment à peu près? C'est tout digital sur l'ordinateur ou t'as fait...
Ouais, ça, c'est ça. Je travaille digitalement. Fait que oui, c'est dessiné dans Photoshop. Puis,
On n'a aucun préjugé là-dessus, by the way. Là. Moi, je suis vraiment impressionné. Puis toi, t'as dû crier le nom de ta mère quand ils t'ont dit. Parce que c'est pas du draft chaff que t'as fait, là. Ils t'ont demandé de faire Land Tax, là. Cette carte-là, ça fait 30 ans qu'elle voit du jeu dans plein de formats. C'est une des cartes blanches les plus fortes de toutes les cartes blanches. Puis à toi, le noob, tu vas nous faire Land Tax. Puis non seulement tu vas nous faire Land Tax, mais en plus, je veux dire, c'est le artwork le plus awesome ever de Land Tax. C'est un géant qui est en train de rouler une basic plane comme si c'était un tapis. Vraiment awesome, là. C'est fou, là. Non, mais comment tu... c'est ça ma question, là. Quand t'as vu la commande, tu sais, on t'a dit, tu vas faire Land Tax, t'as dû faire comme, oh my God.
Ouais, c'était pas mal ça, là. Je me suis levé, puis j'ai vraiment tapé des mains, puis j'en revenais pas, là. Tu sais, c'est. Puis même, tu sais, pas juste Land Tax, mais les trois autres cartes.
T'as fait les autres. Avez-vous d'autres choses sur Land Tax avant qu'on saute les autres?
Non, pas vraiment. Ben, la seule affaire, je sais pas si. Ça me rappelle un peu Day of a Tentacle, qui a pas vraiment rapport, mais c'est que l'artiste adorait mettre des affaires noires au premier plan, puis les game designers détestaient ça parce que ça leur enlevait des outils pour plugger des puzzles. Mais ça n'a pas tout rapport, fait que je pense qu'on est mieux de changer de carte.
Écoute, on va aller voir A Natural Growth, qui était une carte qui était sortie dans Midnight Hunt. Toi, tu l'as refaite, c'est le grand loup là, qui s'en va croquer le chevalier. Puis j'aime beaucoup que tu as gardé. On dirait que tu as comme le Frankovic verse, là. Si c'était ton propre coin du multivers, parce qu'on voit ce qui se passe. Tu sais, tes arbres, tu les as faites pareil. L'espèce d'arbre en rond. Ça a-tu un nom, cette affaire-là? C'est-tu comme. Un nom, ce style d'arbre-là, de représenter un arbre comme ça? Ça fait un peu comme carte à jouer, un peu, là.
Ben, dans le fond, si je peux en glisser un mot un peu là-dessus, ce style-là, ça m'a été... J'avais fait une illustration il y a longtemps quand j'avais appliqué pour travailler sur un jeu qui s'appelait The Banner Saga. J'ai pas eu la job à ce moment-là, mais l'illustration, je l'ai gardée. Puis l'illustration était dans le style d'un artiste des années 40. Il a travaillé là, vraiment, vraiment longtemps, qui s'appelait Evine Earle. Il a travaillé entre autres sur La Belle au bois dormant pour Disney. Puis si vous allez voir ses affaires, vous allez comprendre un peu d'où vient mon influence. Parce que c'est un artiste qui travaillait énormément les décors. Genre, tu sais, il y avait pratiquement jamais de personnages. Ce que tu voyais, c'était surtout des petites vaches puis des animaux au loin. Mais c'était vraiment un gars de décor. Puis il avait cette manière-là très... très géométrique.
Parce que c'est ça que ça fait penser, comme une tapisserie sur un mur ou les motifs d'une nappe de table.
Ouais, ben c'est exactement ça.
C'est vraiment ça, hein?
Ouais. Puis j'ai...
Non, c'est awesome. Vas-y.
Ben, merci. Mais ouais, c'est ça. Puis j'ai aussi, j'ai pris son style, mais en même temps, j'ai essayé un peu d'intégrer du mien parce que justement, tu sais, cet artiste-là faisait pas beaucoup de personnages. Puis là, ma question, ça a été de, OK, comment j'intègre ce style visuel-là avec des personnages dedans? Puis là-dessus, je suis vraiment allé puiser plus que dans les choses que je faisais avec, c'est ça, des silhouettes fortes, des couleurs vives, puis beaucoup, tu sais, souvent, c'est assez triangulaire, comme si tu regardes la fourrure du loup, c'est comme des espèces de motifs. Tu sais, je prends dans Photoshop, dans le fond, j'utilise le lasso, je fais une sélection, puis après ça, je prends une broche très, très soft, puis là, je peins à l'intérieur.
Ah, OK.
Cool, cool.
Ben ouais, t'as ta chaîne, maintenant, tu nous dis, là, ton loup, ses épaules, son torse, t'as respecté. Il est pas un chunk rectangulaire, là, tu rajoutes du dynamisme avec tes
sa
affaires.
Sa férocité aussi est bien réussie, la face que tu as faite, là.
Ah oui, le chevalier, il a pas l'air d'avoir un bel après-midi. Sinon, tu vas-tu faire des decks en particulier pour mettre les...
Attends, il y en a un autre, Tommy.
Ah, OK, on peut en parler.
Il y a un autre artwork, t'as peu. Je gardais le meilleur pour la fin. C'est Signal d'alarme, Intruder Alarm, qui venait de Stronghold, refait pour Throne of Eldraine. C'est dans le fond... Et ça, c'est les fairies, comment elle s'appelle? C'est Talion, pas Talion.
Talion. Ouais.
Talion. Puis on voit aussi là, c'est les dans le fond, c'est comme le monde des fées là. J'aime qu'il y ait comme une espèce de répétition. Tu sais, t'as voulu montrer que c'est comme les boss des fées, puis ils ont comme leur petite fée 1-1 avec eux. Mais t'as fait ça un peu comme je disais tantôt là, ça fait très très tapisserie là, genre de répétition. Là. Je trouve ça awesome. Ça donne vraiment une impression. Là, il y en a des millions là, puis
C'est le chevalier, il s'est fait pogner la main dans le sac. Là,
ouais.
Il a accroché la petite alarme.
Tu sais, les petites cloches, justement, les alarmes, tu sais, le plancher, il y a des genres de petites cloches en filigris, je sais pas trop comment appeler ça, là, des genres de petites. Parce que c'est ça, la carte, c'est qu'il a accroché l'alarme. C'est vraiment bien. Tu sais, on voit même là, le pied qui a fait bouger la cloche. Kling-ling!
Ben oui, si.
C'est super bien pensé.
Puis j'imagine que ça devait faire partie des instructions qu'ils vous donnaient pour les Enchanting Tales, là, pour le bonus sheet, parce que ça se retrouve un peu sur les autres que ça allait un look plus livre d'histoire. Parce que on dirait que tu as vraiment tes dimensions qui sont flat une en arrière de l'autre, comme si tu ouvrais un livre qui est fait en papier avec les différents trucs qui se posent.
C'est vrai.
Est-ce que c'était ça un peu ça? Ou...
Ah, c'était exactement ça même. Pour cette image-là, c'est ça, une des contraintes que j'avais, c'était vraiment de mettre les clochettes. Ça, c'était quelque chose qu'ils voulaient. Puis ils voulaient que les fées soient là. Après ça, vraiment le cadrage puis tout, je voulais que ça ait l'air là, vraiment là, intimidant pour celle-là. Fait que ouais, j'étais allé all-in avec la profondeur puis les fées, justement, comme tu dis, en tapisserie dans le background.
Ah, c'est pas mal cool. Je suis content de pas être à la place de ces trois héros-là. Là, ça, ben, peut-être même de ce héros-là.
Il
y a rien
de
ces héros-là sont pas avec les autres. Là. Ouais, ça se tient, ce monde-là. Là. Puis sinon, tu joues où à Magic? Y a-tu des magasins? Tu joues avec des amis? Y a-tu un endroit où on pourrait te croiser?
Écoute, je suis pas beaucoup dans les magasins. Ça m'est arrivé à 4-5 reprises, mais je suis travailleur à la maison, dans le fond, puis je joue beaucoup avec un de mes amis, avec un de mes amis qui vient souvent chez nous parce qu'on fait un jeu vidéo ensemble. Mais sinon, je joue avec d'autres amis dans des soirées, puis ce genre d'affaires.
OK, fair enough, fair enough. On t'invitera à un moment donné si t'es gentil. Connais-tu des jokes? Es-tu quelqu'un qui met de la vie dans un party?
Ah, quand même de la jasette, je te dirais.
Ah, il a pas l'air trop stressé.
Est-ce que, ça a été difficile de pas en jaser, justement? J'imagine qu'il y a bien des affaires dont tu pouvais pas parler.
Oui, ça
a
quelle année livre t'as fait ces arcs-là?
De 270 pages, là, ça a été comment le temps, le processus?
J'ai terminé ces illustrations-là. En tout cas, je les ai faites en deux batchs. La première batch s'est faite de la mi-mai jusqu'à la mi-juin l'année passée, donc en 2022.
Ah, quand
puis la... Ouais, c'est ça. Ben, il y a un an de ça. Puis la deuxième batch s'est faite direct après la première, dans le fond. Fait que de la mi-juin jusqu'à la mi-juillet.
Oh, est-ce que tu as eu beaucoup de retouches à faire? Mettons que tu envoies une ébauche, puis ils disent c'est correct, ou tu finis ton affaire, puis ils disent change ça.
Ben, vraiment, vraiment très peu. Ils m'ont, même je te dirais à peu près pas, ils m'ont les deux premières cartes que j'ai faites, c'était Repercussion puis Unnatural Growth. Puis après avoir envoyé Repercussion, elle m'avait dit, je crois, de faire les arbres un petit peu plus comme dans Unnatural Growth. Elle aimait le côté rond, moins okay. Le côté sapin piquant. Fait que c'est pour ça que pour les deux autres, pour l'Entax et Intruder Alarm, je suis allé vraiment là, avec, c'est sûr, les espèces de buissons.
Les buissons sont ronds sur Eldraine, si c'est ça qui est en train de se passer. Mais je trouvais ça fait très thématique de faire des affaires plus sapins en pointu pour une carte rouge. Faudrait parler avec la madame.
Ouais, là, elle connaît rien.
Elle joue pas à Magic. Elle.
Non, mais jusqu'à date, quand je check les pairings d'artistes puis une autre carte, je sais pas si je trouve que t'as été bien pairé pour le Eldraine. Genre, je check tes cartes puis je pense que t'es plus à ça fit. Genre, c'est un bon set. Je sais pas sur quel set tu vas travailler prochainement, mais.
Ouais, t'as-tu été rappelé?
Non, ben pas encore. En fait, elle l'avait demandé, mais je suis vraiment
occupé.
Ouais, avec plein d'affaires. Puis, ben en fait, avec une grosse affaire, mais non, c'est ça. Probablement, une fois que je vais avoir le temps, je vais leur écrire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles cartes qui sont prévues. En tout cas, pas que je sache.
Commune, là, c'était sûrement le temps de faire une petite commune.
Juste ça slide. T'as-tu reçu des whiteback? Font-tu encore ça, les...
Ouais.
Pour ceux qui connaissent pas, là, c'est que pour les artistes, ils reçoivent une version de leur carte, mais avec pas le dos de la carte Magic. Là, ils appellent ça des whiteback. Puis éventuellement, les artistes ont commencé à se servir de ça comme matériel promotionnel ou même pour se donner un petit revenu additionnel en les signant puis en les vendant. Là. Fait que oui, ça existe encore.
Ouais. Ben justement, je suis censé les recevoir, mais j'ai reçu un email il y a à peu près un mois de ça qui disait qu'il y avait des problèmes avec l'imprimeur, fait que il va y avoir des petits délais. Mais,
évidemment. il y en a sur les sets principaux, avec.
Ouais, c'est ça. Fait que non, ben je sais que ça va arriver à un moment donné. Là, je suis pas stressé, mais j'ai très hâte de les avoir.
Ben oui, c'est cool.
Ouais. Et ton jeu vidéo indépendant que tu n'arrêtes pas de travailler dessus, c'est on peut-tu plugger le Kickstarter ou whatever? Ouais.
Ah ben c'est pas de Kickstarter, mais écoute, s'il vous plaît, plugger la page Steam. Oui. Ça s'appelle Obsidian Legion. C'est un Metroidvania avec inspiration Dark Souls. On est deux à travailler là-dessus. Ça fait 3 ans et demi qu'on fait ça, qu'on est auto-financé. Ouais, c'est ça. Mon partner, c'est un programmeur. Moi, je suis l'artiste. Puis, c'est un projet qu'on. Ben, c'est ça. Ça fait 3 ans et demi qu'on y pense. Puis, avant ça, ça faisait. Les 3 années avant, on en a discuté longtemps. Puis.
Wow.
Ouais. C'est
une station. C'est direct mon genre de jeu, ça. C'est sûr, moi, l'essayer. Wow. Non,
moi j'adore. C'est comme. Le souvent les problèmes que j'ai avec la panoplie tu me dis Metroidvania Souls-like, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui à peu près n'importe qui est capable de le faire, puis je regardais juste le l'animation que vous avez faite, puis ça paraît que t'as pris du temps à animer les coups des armes, c'est pas juste les paper doll animation que je commence à virer un peu amer là. Fait que moi je suis intrigué, puis je vais sûrement ben, j'ai déjà wishlisté, là, mais je vois.
Merci. Ben, merci. Ben, c'est justement, écoute, je pense que tu as mis le doigt dessus. C'est le cut-out, c'est tellement, tellement utilisé, puis pour des bonnes raisons, c'est vraiment, vraiment rapide, justement, à produire, puis ça fait quand même des animations d'une assez bonne qualité, mais écoute, je pense qu'il n'y a rien qui accote l'animation traditionnelle là-dessus, puis c'est vraiment, vraiment ça que j'ai voulu faire avec Obsidian Egypt, tu sais, toutes les frames sont faites là, à la main, puis j'ai comme... En faisant mes premiers tests au début, j'aimais bien, ça donnait quasiment un petit look pre-render, comme tu sais les jeux à l'époque de Diablo où est-ce qu'ils faisaient dans le fond les modèles 3D des personnages qui allaient être dans le jeu, mais comme il n'y avait pas le jus, les processeurs n'étaient pas assez forts pour loader du 3D, il fallait qu'ils les exportent en sprite, qu'après ça ils fassent les sprite anime avec ça, puis c'est un peu ça que j'ai voulu référencer avec.
C'est cool, ça. Puis, anyway, on peut être mis au courant de tout ça. Suivez un artiste local sympathique sur francojovic.com. On a vu ça. On vous mettra la description dans la, le lien dans la description du show. Tu reviendras nous voir à Terrain Basique. Je pense qu'on est rendu pas mal au bout, là. On a découvert quelqu'un qui aime les artefacts, qui aime le blanc et le bleu. Il a pas parlé d'elfes. Je suis très content. Félicitations aussi. Ça va bien tes affaires. Puis, t'as au moins vendu un de ton jeu qui est en train de se finir. Là, moi, j'ai très hâte de voir ça. Merci, François.
Ben, merci beaucoup. Merci à vous autres, en passant. Merci de m'avoir amené à votre podcast.
Ben, avec plaisir, Colin. Si t'en as d'autres, des artistes pis des plugs de Magic, là, on en fait une affaire de même par semaine, nous autres. Fait qu'on a de la place, c'est sûr. Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut dire de quoi?
Non, on se revoit dans 2 ans avec peut-être Mikhail Secret Lair Frankovic. Ouais.
Fait que toi, Joe, t'as parlé de quel jeu? C'est quoi la trame sonore qu'on entendait?
Hyper Light Drifter, parce que si vous visitez la page de notre ami François, c'est un jeu que je crois qu'il a beaucoup aimé jouer. Le soundtrack est bon, puis ça se prend mieux que commencer à écouter tous les films de Godzilla.
Ok, ça. Je m'ai fait dernièrement tous les films de Godzilla un en arrière de l'autre. Là. Ouais, il y a un bout, là, le bébé de Godzilla. C'est pas les meilleurs bouts. Hey, merci Jason d'être passé aussi. On se voit jeudi pour la Dandum. Puis Emmanuel, côté Séguin, qui a déchiré ici notre invité.
On draft dimanche, on se fait un petit Unfinity. Fait que venez à l'adversaire puis amenez votre chapeau. Toujours important.
Ça se peut que j'y aille dimanche.
Il faut réserver dimanche. Tommy sort de sa tanière. Hey, ça arrive pas souvent. Vous voulez de là?
Ça arrive très souvent.
On parlait pas du Magic.
Ouais, ben là, peut-être pour aller jouer du Magic. Ah. Ça, c'est une autre chose. Fait que là-dessus, on va dire un gros merci à Martin Godette qui s'occupe du montage à Bond pour les beats. L'adversaire, parce qu'on parle d'eux autres. Merci aussi à François Frankojovic qui est venu nous voir. Très, très sympathique. On te souhaite prospérité et sagacité dans toutes tes aventures. Puis succès aussi avec ton jeu. Très hâte de voir ça. On peut dire aussi que notre show est disponible sur Spotify, mais allez pas sur Spotify. Puis mon nom, c'est Tommy Godette. Je pense qu'on est pas mal rendu au bout. Je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrew possible.
De la famille H2O Web Media.